Il arrive souvent que quelqu'un recherche un livre dont il connaît l'existence par des sources indirectes, il n'arrive pas à remettre la main dessus. Bon, c'est quelque chose qui peut paraître assez compréhensible lorsqu'il s'agit d'un livre ancien, qui a eu de nombreuses chances de disparaître au cours des siècles. Mais on est parfois frappé de rechercher des livres dont la parution est beaucoup plus récente et que l'on n'arrive pas à retrouver. C'est-à-dire, cela pose le problème de la survie de la disparition des livres. Le danger de la disparition de textes importants est quelque chose qui existe, et l'on sait, pour prendre un exemple, par divers recoupements, que l'on a perdu une très grande partie de la littérature de l'Antiquité classique. Pour vous donner quelques exemples, un compilateur du 5e siècle de notre ère, qui s'appelait Jean Staubé, a écrit une anthologie de la littérature antique, où il fait 1450 citations. Et sur ces 1450 citations, les trois quarts proviennent de textes qui ont disparu. Encore un autre exemple. Vous connaissez les grands tragiques grecs Eschyle, Sophocle, Euripide. On sait qu'ils ont composé 285 tragédies. Je crois qu'il nous en reste 31 pièces. Même chose pour Aristophane et d'autres. Et les textes de l'Antiquité qui nous sont conservés posent d'autres problèmes, des problèmes d'authenticité. C'est-à-dire, entre le moment où les textes étaient conservés et le plus ancien témoin que nous ayons de ces textes, il a pu s'écouler de nombreux siècles. Par exemple, il existe certains discours de Cicéron que les gens qui ont fait du latin ont pu traduire en classe, dont le manuscrit le plus ancien date du 15e siècle de notre ère. C'est-à-dire, environ 1600 ans, après que ces discours aient été prononcés. Je vous cite des exemples anciens, mais on pourrait citer, et j'en citerai peut-être tout à l'heure, des exemples beaucoup plus récents. Alors se pose le problème, quand on voit tout ça, est-ce qu'il faut conserver tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été publié? Il est évident que tout le monde ne peut pas le faire, y compris beaucoup de bibliothèques qui sont vite gagnées par l'encombrement. Je crois que cette bibliothèque aimerait bien qu'il y ait un certain nombre de fonds, mais elle ne saurait pas où les mettre. Et la Bibliothèque nationale se pose le même problème, c'est pour ça qu'on était de nous construire quatre grandes tours sur les bords de la Seine. Mais cette charge de conservation incombe à certaines bibliothèques, en général ce sont les bibliothèques nationales. Une bibliothèque nationale, par exemple la Bibliothèque nationale de France, est fondée sur ce que l'on appelle le dépôt légal, c'est-à-dire l'obligation pour les éditeurs et imprimeurs de déposer un certain nombre d'exemplaires de tout ce qui est publié. Ce dépôt légal remonte très exactement en 1537, à l'édit de Montpellier, promulgué par François Ier. Et dans cet édit, François Ier justifiait cette volonté de conservation par cette phrase « Pour avoir recours aux 10 livres, si de fortune ils étaient si après perdus de la mémoire des hommes, ou aucunement diminués ou variés de leur première publication ». Vous avez là-dedans les deux raisons de la nécessité de conservation. La première nécessité, c'est de conserver ce qui a été publié, ce qui a été écrit, parce que même si les livres semblent sans intérêt au moment où on les a entre les mains, on ignore absolument dans quelle mesure ils pourront intéresser les gens qui viendront après nous. Et puis vous avez aussi autre chose, la volonté d'authenticité. Entre la première et un ouvrage qui a eu de nombreuses éditions, entre sa première édition et celle que vous avez en main, il a pu se passer beaucoup de choses. L'authenticité des textes originaux, c'est contre toutes les suppressions, interpolations ou modifications qui pourraient les déformer au cours du temps. Aussi, par exemple, comme l'ont fait parfois certaines bibliothèques, ne conserver que la dernière édition d'un ouvrage, quelque chose qui peut paraître insuffisant. Il y a par exemple aux archives départementales de Haute-Seine, la bibliothèque des Guines, qui est une bibliothèque de collectionneurs qui a été donnée au département des Hauts-de-Seine et a été déposée aux archives départementales. Et ce collectionneur a beaucoup d'ouvrages en littérature ancienne et il a eu l'idée, si vous voulez, de rassembler d'un même texte le plus grand nombre d'éditions possibles. C'est-à-dire, un chercheur peut suivre l'évolution d'un texte à travers toutes ses éditions, ce qu'il est difficile de faire partout. Alors, s'il faut analyser les causes de la survie et de la disparition des livres, c'est une démarche qui est très complexe parce que de nombreux facteurs rentrent en ligne de compte. Les causes, grosso modo, peuvent être accidentelles ou naturelles, ou matérielles, volontaires ou programmées, ou bien relevées d'une espèce de sélection naturelle. Et avant d'aborder les problèmes matériels, je voudrais commencer justement par ce problème de sélection naturelle. Vous avez d'abord une sélection qui se fait par la valeur, je dirais la valeur marchande ou la valeur vénale. Un livre auquel on attache beaucoup de prix, on attachait beaucoup de prix, c'est mieux conservé qu'un volume considéré comme ordinaire. On prendra plus de soin, par exemple, maintenant, un ouvrage à tirage limité qu'un livre de poche. Cela vaut dès le Moyen-Âge. Pour beaucoup de gens, quand on leur parle des manuscrits médiévaux, ils voient tout de suite de très beaux manuscrits à peinture, mais ça, c'est le dessus de l'iceberg. Une grande masse des manuscrits médiévaux étaient des manuscrits d'études, des manuscrits ordinaires, mais ceux-là se sont moins bien conservés, justement, parce qu'on y a moins attaché de prix. Un autre exemple. On a conservé à peu près une cinquantaine d'exemplaires de la Bible de Gutenberg. Cette Bible de Gutenberg imprimée en 1455 et qui passe pour le premier livre imprimé, ce qui est faux d'ailleurs parce que pour faire une si belle Bible, il a fallu qu'il y ait des essais. Donc on conserve une cinquantaine d'exemplaires à peu près complets et des fragments assez nombreux, alors qu'on estime, selon les spécialistes, que le tirage a dû se situer entre 150 et 300 exemplaires, ce qui est un coefficient de conservation assez extraordinaire. Et pour vous donner un autre exemple, en restant à l'époque des incunables, parmi les incunables les plus prestigieux, il faut citer le Liber Chronicarum d'Hartmann Schadel, c'est-à-dire les grandes chroniques de Nuremberg, imprimées en 1493, très grand livre avec de nombreuses illustrations. Par différents regroupements, je suis persuadé qu'il en subsiste un millier d'exemplaires, ce qui est quelque chose quand même assez extraordinaire. Le tirage a dû être assez important pour l'époque, mais il n'a quand même pas dû être énorme en 1493. C'est un coefficient de conservation que ne connaissent pas beaucoup de livres postérieurs. Cela prouve qu'on a eu très tôt conscience de la valeur et de la signification de ces livres, que ce soit les manuscrits enluminés, la Bible de Gutenberg, les grandes chroniques de Nuremberg ou d'autres livres semblables. La valeur intellectuelle des ouvrages et la qualité de leurs textes a pu jouer aussi. Vous avez un certain nombre d'imprimeurs de la Renaissance qui sont extrêmement connus pour la qualité de leurs textes, les imprimeurs humanistes, Josbad, Simon de Colline, Robert Estienne. Mais vous savez que beaucoup d'impressions de Robert Estienne sont loin des raretés bibliographiques. Elles se sont fort bien conservées, et on peut encore en trouver sur le marché pour des prix extrêmement abordables, parce que ce sont des livres qui ne sont pas rares, donc on a reconnu la valeur de ces éditions, on les a conservées. Mais alors, le principal facteur de sélection naturelle, c'est l'usage. Et un usage qui, en général, provoque l'usure des livres. Ces livres dont on se sert couramment et qui résistent mal aux manipulations répétées. C'est la leçon que j'ai tirée en préparant une exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale en 1975 et qui s'appelait « Le livre et la vie quotidienne ». En effet, il ne faut pas croire que le champ du livre se limite à l'étude, à la culture et au délassement. Des livres nombreux et divers sont d'un usage courant dans la vie quotidienne, et ont été dans la vie quotidienne. Il faut vous rappeler, par exemple, actuellement, les livres utilitaires et fonctionnels entrent toujours pour une bonne moitié dans le chiffre d'affaires de l'édition française. L'édition française, c'est pas seulement le prix Goncourt, c'est pas les grands ouvrages dont on parle dans les émissions de télévision, mais ce sont tout un tas de livres d'ouvrages courants qui fait le chiffre d'affaires de l'édition française. Alors voilà pourquoi les manuels scolaires, les abécédaires, les petits traités grammaticaux, les minces éditions classiques et d'usage des collèges et dictionnaires portatifs sont devenus si rares, alors qu'ils ont été publiés en abondance, et ceux qui subsistent conservent la trace de leur usage. Il y a un petit abécédaire qui a dû être publié en quantité au XVIIe siècle, qui s'appelait la Croix de Pardieu. On en conserve peut-être un, deux ou trois exemplaires d'éditions différentes. Or, c'est un livre qui était pourtant si courant à l'époque que dans Monsieur de Pourceaugnac, un personnage de Pourceaugnac dit « L'apothicaire connaît sa médecine comme moi je connais ma Croix de Pardieu ». Alors ça c'est assez extraordinaire parce que ça prouve que c'était un livre d'un usage courant et il n'en reste pratiquement plus. Et je retrouve aux archives d'Arras. Il y a absolument un tout petit abécédaire qui date de 1605, et à ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il était imprimé sur un papier extrêmement fort. Le cas est le même pour les livres liturgiques, les missels, les paroissiens, les recueils de prières, les petits livres de piété, qui étaient des livres d'usage. C'est la même chose pour les livres de cuisine, le recueil de médecine pour tous, les guides de voyage, les almanachs, etc., etc. Il faut penser aussi à notre exemple aux partitions musicales, qui sont passées par les mains de nombreux chanteurs ou de nombreux instrumentistes, et dont beaucoup ont disparu. Ben voilà, par exemple, la médecine nouvelle pour 1911, du docteur Dubois, 66e édition. On voit que c'est un livre qui a servi. Voilà la Fugitive de Jules Claretti, qui à mon avis doit dater des années 1880, ou quelque chose comme ça. Voyez-vous les traces d'usage. Alors vous avez un autre aspect de la sélection par l'usage, c'est un peu ce que j'appellerais le renouvellement. Personne ne songe à conserver un annuaire téléphonique ou un indicateur de chemin de fer une fois qu'il est périmé. Un automobiliste qui achète chaque année le guide rouge Michelin jette le précédent. Si bien que la première édition du guide Michelin qui date de 1900 et qui a été tirée à 35 000 exemplaires ne figure pas dans les collections de la Bibliothèque nationale. Justement, quand j'ai fait cette exposition sur le livre et la vie quotidienne, je l'avais indiqué, un journaliste l'a relevé, et la Maison Michelin nous l'a prêté pour cette exposition. Je me suis dit entre nous, si la Maison Michelin a fait ce geste, s'il y en avait plusieurs, nous l'aurait donné. Il a été tiré en 35 000 exemplaires d'après la préface de l'édition suivante. Alors pour la petite histoire, il y a 2 ans, je l'ai aperçu sur une boîte des quais pour 80 francs. J'ai cité les annuaires téléphoniques ou les indicateurs de chemin de fer, mais je sais qu'à la Bibliothèque nationale, des gens ont fait des recherches et des recherches sérieuses pour différentes choses sur ce type d'ouvrage. C'est aussi le sort d'ouvrages à réédition fréquente. Des éditions anciennes sont remplacées par des éditions réputées meilleures parce que plus récentes. C'est une chose qui peut passer pour des particuliers, mais c'est beaucoup plus gênant pour les bibliothèques publiques parce que la recherche peut avoir besoin de comparer les diverses éditions d'un même ouvrage. Je faisais aussi cette remarque. Si on voulait trouver une collection complète du Pilarus illustré qui a dû commencer à paraître en 1906 à la Bibliothèque nationale, on aurait du mal à le trouver. D'une part parce que chaque volume a été classé séparément, non pas en collection. D'autre part parce qu'on a vu la collection est extrêmement incomplète. J'ai vu aussi d'autres exemples sur ce livre et la vie quotidienne. Par exemple, des livres à édition extrêmement fréquente. On les a conservés jusqu'aux années 1910-1920, puis tout d'un coup, il y a une rupture. J'ai trouvé comme ça un livre qui est un livre de cuisine qui avait commencé à apparaître en 1826, qui continue à apparaître, sans beaucoup de changements apparemment entre les éditions. Donc il y a une rupture autour de 1920. Puis j'ai trouvé un livre, une autre édition parue 30 ans après, elle était tout à fait différente. Alors on ne peut pas savoir à quel moment dans cet ouvrage il y a eu la rupture, ou il y a eu des changements ou des modifications, puisqu'on n'a pas tout conservé. Quelque chose comme le petit Larousse, il peut être très intéressant d'avoir la collection complète pour pouvoir voir quelles sont les entrées et les sorties et les modifications d'articles. Puis alors tous ces livres d'usage, justement, qui ont tellement disparu, nous apprennent beaucoup de choses sur la vie quotidienne, sur la société, sur l'économie, etc. Je pense à ces catalogues de grands magasins. On arrive dans ces choses qui sont extrêmement précieuses pour tout un tas de recherches socio-économiques. Et recherches aussi sur l'histoire des mentalités, etc. J'ai parlé aussi des destructions volontaires et programmées. Alors ça, c'est un autre domaine. Je vous donne d'autres exemples. Ainsi, dans les années 1780, quand l'empereur d'Autriche Joseph II a sécularisé les couvents autrichiens, il a fait mettre au pilon une partie de leur bibliothèque, je cite, « tout le fatras des inutiles livres de prière et de dévotion, légendes et autres absurdités théologiques ». En France, les confiscations révolutionnaires ont mis à la disposition de la nation une masse de livres provenant des abbayes et des couvents, aussi des bibliothèques d'émigrés, et celles des différents corps d'anciens régimes qui ont été supprimés, comme les universités, les anciennes universités qui existaient avant la Révolution ont été supprimées, les académies, les corporations judiciaires, etc. Des tris arbitraires ont été opérés. On ne soucia pas de garder, je cite encore, les livres de théologie, de liturgie et de jurisprudence que nos institutions nouvelles ont rendus presque inutiles, d'où de nombreuses destructions mises à disposition de l'artillerie pour la confection de gargouzes, qui ont eu raison d'une bonne partie de ce stock. À cela s'ajoutèrent de nombreux pillages et des vols, qui ont eu au moins la conséquence indirecte de sauver une partie de ce patrimoine. Voilà pourquoi, lorsque l'on va dans des librairies où on vend des livres anciens, vous voyez souvent des livres avec des ex-libris de couvents, d'abbayes, d'anciens châteaux, etc. Ce sont des livres qui, à travers tout le XIXe siècle, viennent des pillages qui ont été faits au moment des confiscations révolutionnaires. Alors, tout ce qui a été sauvé de ces confiscations révolutionnaires, en 1803, a été mis à la disposition des villes et constitue le fonds ancien de beaucoup de bibliothèques municipales. Mais faute de personnel et faute de crédit, aussi bien souvent par manque d'intérêt, ces fonds furent extrêmement négligés au cours du XIXe siècle dans beaucoup d'endroits. Je vous cite deux exemples parmi d'autres. En 1837, le maire du Quesnoy, dans le Nord, déclarait « Quelques vieux bouquins, tous traitant de théologie, les 7/8 en mauvais latin, gisent pêle-mêle dans un coin du grenier de l'hôtel de ville. Ils sont parfaitement bien casés là où ils se trouvent et ne méritent pas qu'on les tire de leur obscurité. » En 1843, un article du bulletin du bibliophile indique comment la ville de Moulins a vendu pour 45 francs à 3 chiffonniers, 600 livres réputés doubles, et cet article montre qu'ils n'étaient pas doubles du tout, et que c'était souvent des livres fort rares. La même année, un autre article de ce bulletin constatait, dans certaines villes, tels ou tels manuscrits fort anciens ont été vendus au prix du parchemin. C'est des petits exemples, mais... Bien sûr, le vandalisme à l'égard des livres est aussi le fait des particuliers. Le papier imprimé a beaucoup servi à envelopper. Montaigne constatait dans ses essais, en récompense, j'empêcherai peut-être que quelques coins de beurre ne se fondent au marché. Et dans ce même livre des essais, il rappelle deux vers de poètes latins, Martial et Catulle, qui craignaient de voir leurs œuvres servir, enveloppés l'un des olives, l'autre des maquereaux. On connaissait aussi le repas ridicule de Boileau, qui fait dire à son hôte, pour moi, j'aime surtout que le poivre y domine, j'en suis fourni, Dieu sait, et j'ai tout pelletier, roulé dans mon office en cornet de papier. Il arrive encore toujours, maintenant, quand on utilise de vieux parchemins pour confectionner des abat-jours, et des livres anciens bien reliés, on les vide pour en faire des boîtes à cigares. Ce sont des choses que l'on voit encore assez couramment. Alors, venons-en aux causes accidentelles et matérielles de destruction, qui ne sont pas forcément indépendantes de la volonté humaine d'ailleurs, car la négligence des hommes y a souvent sa part. Les livres sont fragiles. Le feu, l'eau, les rats, les insectes, les moisissures, la pollution atmosphérique peuvent leur porter des atteintes plus ou moins graves. En dehors des faits de guerre, il y a eu énormément de destruction pendant les guerres, sans remonter à la bibliothèque d'Alexandrie. Il faut rappeler qu'en 1870, la bibliothèque de Strasbourg a brûlé. En 1914, la bibliothèque d'Arras a brûlé. La bibliothèque de Louvain en Belgique a trouvé le moyen de brûler aux deux guerres. Pendant la dernière guerre, il y a eu très nombreuses destructions. Douai, Cambrai, Caen, Tours, des bibliothèques de Normandie, Vitry-François. Je ne parle pas des destructions des bibliothèques allemandes, qui ont été aussi très nombreuses. Et sans oublier que quand les villes étaient détruites, beaucoup de bibliothèques de particuliers ont aussi disparu. Alors, en dehors des faits de guerre, le feu semble relativement rare dans les bibliothèques, probablement à cause des diverses précautions qui sont prises contre le feu. On craint énormément le feu dans les bibliothèques. J'en connais peu d'exemples. La bibliothèque de Dunkerque a brûlé en 1926 ou 27, je crois. Plus récemment, il y a 3-4 ans, c'est la bibliothèque de Leningrad qui a brûlé. Tout moi, dans nos régions, il n'y a pas beaucoup d'incendies volontaires. J'ai eu une fois un livre américain concernant les dégâts du feu dans les bibliothèques, et je me suis aperçu qu'aux États-Unis, il y avait un certain nombre de bibliothèques qui ont grillé plus ou moins en entier pour des causes qui n'étaient pas accidentelles. Alors, ce qui est plus grave, c'est l'eau. Quand je me suis occupé de la conservation dans les bibliothèques, je me suis aperçu de l'immense variété des dégâts qui pouvaient être causés par l'eau. Il y a d'abord, bien sûr, les catastrophes naturelles. Vous vous rappelez tous de l'inondation de Florence en 1966, qui a causé beaucoup de dégâts dans plusieurs bibliothèques florentines, à commencer par la Bibliothèque nationale. Je crois d'ailleurs que cette année-là, Florence n'a pas été la seule ville touchée. Je crois que les Vénitiens ont eu aussi des dégâts. Un exemple récent de catastrophe naturelle, 4-5 ans, je crois, c'est la bibliothèque universitaire de Metz. La bibliothèque universitaire de Metz était construite sur un terrain inondable. Comme Tolbiac peut-être bien aussi d'ailleurs. Oui. Comme le terrain était inondable, le rez-de-chaussée n'était pas du tout utilisé. Puis comme il n'y avait pas d'inondation, au cours des temps on a oublié cela, et comme on manque de place dans les bibliothèques, ben, on a utilisé le rez-de-chaussée. Alors c'est à ce moment-là que l'inondation est venue. Ce qui est terrible, c'est que les causes peuvent être les plus diverses. J'ai connu des orages. Une bibliothèque universitaire qui est au Grand Palais, il y a une douzaine d'arrêts, un violent orage a inondé cette bibliothèque parce que l'eau a débordé des chéneaux qui n'étaient peut-être pas bien nettoyés d'ailleurs, est entré dans les bibliothèques, 2 ou 3 000 livres d'inondés. Il y a quelques années, la bibliothèque municipale d'Angers aussi. Mais c'est arrivé d'une autre façon. C'est un orage, mais c'est arrivé par le sous-sol à cause de travaux qui se faisaient dans un bâtiment à côté de la bibliothèque. La fonte des neiges. La fonte des neiges, vous avez un certain nombre de bibliothèques qui ont des verrières au-dessus des toits. Et il y a quelques années, la bibliothèque d'Amiens a eu 2 ou 3 000 livres comme ça qui ont été inondés à cause d'une fonte des neiges rapide. La cohabitation avec des locaux qui ne sont pas faits pour des bibliothèques. J'ai l'exemple de la bibliothèque de la Comédie Française. La bibliothèque de la Comédie Française se trouve en rez-de-chaussée, puis peut-être se trouve dans les étages inférieurs d'une maison d'habitation, et deux fois, une baignoire a débordé dans un étage supérieur et a abîmé des livres et des documents de la Comédie Française. Je me souviens qu'à l'atelier de restauration, nous avons eu un registre du XVIIe siècle de la Comédie Française, de la fin du XVIIe siècle, dont pratiquement tout le bas des feuillets était perdu. Alors, ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont les ruptures des canalisations. Nous en avons connu à la Bibliothèque Nationale. Des ruptures de canalisation pour les causes les plus diverses. À la Bibliothèque Nationale, sans doute, c'est une grande maison. Les canalisations représentent différentes couches de travaux opérées au long de nombreuses décennies. On comprend ça. La bibliothèque de la faculté de droit à Paris, pendant les vacances d'hiver, puisque la bibliothèque est fermée pendant les vacances d'hiver, on ferme le chauffage. Quand on l'a rallumé au mois de janvier, ça a claqué et une partie de la réserve a été inondée. Ça n'aura pas servi de leçon parce que je crois que ça leur est arrivé 2 ans après. À l'imprimerie nationale, qu'est-ce que c'est l'imprimerie nationale? Au moment de travaux, une pression trop forte, une partie des documents sont inondés. La bibliothèque du Sénat, il y a eu aussi des dégâts des eaux parce qu'une partie des magasins se trouve sous des vestiaires où il y a aussi des lavabos. Bibliothèque Jacques Doucet dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. On fait des travaux d'électricité. Un jour, on perce une grosse poutre. On ne savait pas qu'il y avait une conduite d'eau qui passait par là. On l'a su tout de suite. Vous voyez que les causes sont nombreuses. Ministère de la Justice a une bibliothèque en sous-sol, le long de la rue. Une plaque d'égout qui saute un beau matin et l'eau rentre dans la bibliothèque du ministère de la Justice. À la réserve des imprimés, il y avait au-dessus des rayonnages un vieux réservoir qui apparemment ne servait à rien. Un beau jour, ce beau réservoir a débordé, a inondé un certain nombre d'incunables. Il a inondé cette travée-là. La Bible de Gutenberg était là. Depuis, elle doit être dans des boîtes et remise à part. Donc, voyez-vous, les dégâts des eaux sont quelque chose de terrible parce que leurs causes peuvent être extrêmement variées. Et je frémis parfois quand je vais dans une magasin de bibliothèque et je vois des tuyauteries qui se baladent un petit peu partout. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Et vous avez quelque chose aussi qui est extrêmement dangereux, peut-être plus que ces accidents, ce sont les infiltrations. Parce que quand il y a une inondation comme ça, on s'en aperçoit quand même assez vite, et parfois très tôt. Quand il y a eu cette inondation au département des manuscrits, ça s'est passé en fin de nuit, les gardiens l'ont vu tout de suite, et les premiers restaurateurs qui arrivaient très tôt ont été mis tout de suite sur le travail à s'occuper de tout ça. Mais les infiltrations, vous pouvez vous en apercevoir parfois, plusieurs semaines après, si c'est dans un coin où vous n'allez pas très souvent, et vous avez des surprises assez extrêmement désagréables. Et alors, ce qui arrive dans les bibliothèques publiques, aussi, c'est des particuliers. Je vous ai parlé de cette inondation qui a eu lieu au Grand Palais. Je crois que le lendemain, un particulier est venu me voir avec une caisse remplie de livres, qui était tout mouillé. Il puait déjà. Alors, pourquoi il faut aller très vite? Lorsque des livres sont inondés, les moisissures arrivent tout de suite. Alors, quels sont les remèdes que l'on peut faire quand ça arrive? Ben, c'est des remèdes qui dépendent des degrés de la teinte et de la quantité à traiter. À la fin de ma carrière, donc il y a 2 ans, je suis allé à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, qui est la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, conserve un fonds assez important de livres pour enfants du 19e siècle. Peut-être même certains de la fin du 18e siècle, ils ont une inondation. Il y avait quelques livres qui étaient très atteints, les autres qui étaient simplement mouillés sur les coins, mais il faut quand même s'en occuper. Bah alors quand les livres sont peu atteints, on les ouvre, on essaye de les faire sécher d'une façon ou d'une autre, on les ouvre debout, au besoin on met des ventilateurs devant, on peut mettre des buvards à l'intérieur, des traitements artisanaux si vous voulez. Alors pour les livres qui sont extrêmement mouillés, on peut utiliser un procédé qui s'appelle la lyophilisation. La lyophilisation qui est un procédé qui est employé d'une part dans des industries biologiques ou pharmaceutiques, d'autre part dans des industries alimentaires, en schématisant une espèce de procédé de sublimation qui fait passer l'eau directement de la matière solide à la matière gazeuse. Alors effectivement, comme ça, on peut essayer de sauver les livres. Mais la première chose qu'il faut faire quand on a des livres extrêmement mouillés, en attendant de trouver à les lyophiliser, pour éviter que les moisissures continuent à se développer, eh bien, il faut les mettre dans des congélateurs. Dans des congélateurs puissants, hein. Pas les congélateurs ordinaires, des congélateurs à moins 30 degrés. Et après, essayer de les lyophiliser. Ce qui sauve quand même en général le papier, ce qui sauve beaucoup moins les reliures. Parce qu'un livre complet, comme ça, c'est pas seulement du papier, c'est aussi du carton. Ici, c'est du cuir, c'est de la ficelle, c'est des cartons différents. Toutes les matières que vous avez dedans ne réagissent pas de la même façon aux diverses atteintes extérieures. Alors, lyophiliser, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très facile. On avait songé un moment à installer des choses comme ça à la Bibliothèque nationale, mais ça aurait été trop coûteux. Et puis, il aurait fallu que ça serve à toutes les bibliothèques. Donc, là, une des meilleures solutions, c'est quand même la prévention, de faire attention au voisinage des livres et de tout ce qui peut occasionner des dégâts des eaux. Alors, j'ai parlé du feu et de l'eau, mais sans aller jusqu'au feu et à l'eau, il ne faut pas oublier que les livres qui sont constitués de matière organique sont aussi sensibles à la sécheresse et à l'humidité. Je ne me rappelle plus quelle est la proportion d'eau qui existe dans le papier. Il y a quand même une certaine proportion d'eau dans le papier. Si les livres sont, comment dire, dans une atmosphère trop sèche, les livres et puis les autres matériaux, les cuirs notamment, ils risquent de devenir friables et cassants. À la Bibliothèque nationale, où l'atmosphère est parfois un peu sèche, quand même parfois la surprise de prendre des livres reliés en Beauvau du XVIIe ou du XVIIIe siècle, des livres qui ne sortent pas souvent, quand on fait ça, on entend un léger craquement. Ils ont souffert de la sécheresse. Quant à l'humidité, l'air trop humide favorise le développement des moisissures et des micro-organismes. On préconise en général, pour la conservation des livres, tout au moins dans le climat, une humidité relative entre 50 et 60% et une température constante de 18 à 20 degrés. Alors, il y a divers appareils qui peuvent permettre de corriger les excès de sécheresse ou d'humidité. Vous avez des humidificateurs et aussi des déshumidificateurs. Vous en voyez beaucoup dans les musées, dans les bibliothèques, dans les... Pour savoir, il faut évidemment une bonne mesure de la température et de l'hygrométrie. Alors, évidemment, en ce qui concerne les attaques des insectes, la meilleure prévention consiste dans une bonne surveillance et dans un dépoussiérage fréquent. Quand vous secouez des livres et que la poussière sort partout, c'est un très bon nid pour des petites bêtes de toutes sortes. Pour guérir les attaques graves, que ce soit de l'humidité ou des insectes, on peut faire appel à la désinfection. On utilise maintenant la désinfection, l'oxyde d'éthylène, tant que c'est permis, puisque l'oxyde d'éthylène est un produit dangereux. Je ne sais pas si on a trouvé autre chose pour remplacer l'oxyde d'éthylène, parce qu'il est absolument évident que si on veut désinfecter avec des produits qui ne sont pas toxiques, ça risque d'être un peu un cautère sur une jambe de bois. Donc, pour éviter la toxicité, ce n'est pas le produit lui-même, mais c'est les installations qu'il faut mieux surveiller. Il faut quand même faire très attention pour les attaques d'humidité. Il faut être très prudent dans la désinfection. Il y a des gens qui disent tout de suite, quand ils voient des taches sur les livres, ils se précipitent pour faire désinfecter leurs livres. Il faut savoir, notamment dans les livres anciens, que vous avez des taches qui maintenant ne sont plus vivantes. Ça correspond à des dégâts des eaux qui peuvent remonter à 100, 150 ou 200 ans. Vous avez aussi tous ces livres de la première moitié du 19e siècle, il y en a ici, dont les papiers sont piqués. Alors vous avez des gens, quand ils voient les papiers piqués, ils n'aiment pas ça. Ils essayent de laver ces livres pour faire partir les taches. On met des produits plus ou moins chlorés. On arrive à avoir quelque chose de très blanc. Puis quelques temps après, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien du tout. Parce que le plat... Donc il faut être sûr que les moisissures, quand il y a des moisissures, sont encore en action. Quand c'est des livres très précieux, on peut faire des prélèvements pour le savoir. Parce qu'on a constaté que des livres désinfectés risquent d'être moins résistants lors d'une autre attaque. Et puis il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention. On a parfois vu dans des bibliothèques, des gens trouvent des livres infectés, ils le sortent de la pièce où ils sont, ils les font désinfecter, ils les remettent dans la pièce où ils sont, sans se demander pourquoi ces livres sont infectés. Donc il faut déjà souvent voir quelle est la cause qui dépend parfois plutôt de l'architecte, désinfecter aussi les rayonnages si c'est nécessaire, parce que si vous ne recherchez pas la cause, un an après vous pouvez recommencer. Il faut être très prudent, aucune intervention que l'on fait sur ces matériaux qui composent les livres des matériaux organiques, aucune intervention n'est absolument neutre. Donc il faut être extrêmement prudent. Les faire quand il le faut, mais éviter de les faire à tort et à travers. Alors toutes ces atteintes sont extérieures aux livres, mais depuis plus d'un siècle, les livres possèdent en eux-mêmes une source de dégradation. Vous savez que le papier du livre est fait avec de la cellulose que l'on trouvait dans des plantes, que l'on trouvait dans des chiffons qui étaient faits à partir de plantes. Au XIXe siècle, devant l'accroissement des besoins, cette matière première ne devenait plus suffisante. Il y a eu des recherches qui ont été faites dès le XVIIIe siècle. On a cherché des feuilles de je sais pas quoi, des racines de différents arbres, et qui donnaient peut-être des choses très intéressantes, mais qui étaient des matériaux très insuffisants. Alors, dit la légende, je ne sais pas si c'est vrai, en 1843, un tisserand saxon qui s'appelait Gottlob Keller s'est aperçu que de la sciure de bois dans de l'eau faisait une espèce de pâte. Et il paraît que c'est à partir de là que l'on a eu l'idée d'utiliser le bois comme matière première du papier. Et c'est à partir des années 1870-1880 que la pâte de bois est devenue la matière essentielle du papier. Alors, en schématisant beaucoup, je vous dirais qu'il existe deux sortes de pâtes de bois, la pâte de bois qu'on appelle mécanique et la pâte de bois qu'on appelle chimique. La pâte mécanique, c'est la pâte où l'ensemble du bois est râpé et broyé, ce qui entraîne deux inconvénients. Les fibres de cellulose sont cassées et le papier est moins solide. Et puis surtout, le bois qui est un végétal dur contient bien autre chose que de la cellulose, justement pour être un végétal dur. Il contient un fort pourcentage de matière, notamment la lignine, qui est un corps non saturé et qui est très sensible à l'acidité. C'est ce qui vous explique ces livres dont vous voyez le bord de page qui commence à jaunir et qui s'effrite par la suite. Tous vos livres étaient reliés ici, c'est extrêmement important. Les livres reliés s'abîment moins, ils sont beaucoup plus serrés, tandis que la Bibliothèque nationale et Monsieur Léopold Delisle, dès 1900, plaignaient. Et il le savait que ça ferait des dégâts plus tard, n'avait pas le moyen de relier tout ce qui rentrait à la Bibliothèque nationale. Il est obligé de faire une sélection. Ce qui est atypique, c'est les journaux. Ça commence à jaunir sur les bords, et ensuite ça finit par s'effriter. Le journal est aussi un document très important. On estime, par exemple, à la Bibliothèque nationale, avoir 4 ou 5 millions de feuilles de journaux, depuis, disons, un bon siècle, à sauver. À cela s'ajoutent toutes les revues de toutes sortes, les brochures, les livres sur mauvais papier, ce qui fait une masse assez extraordinaire. Alors, il existe quand même une autre pâte qu'on appelle la pâte chimique. C'est-à-dire, par divers procédés chimiques, au sulfate, bisulfite, etc., on sépare la cellulose des autres matières, ce qui donne un papier de meilleure qualité, mais attention, un papier qui est plus coûteux, peut-être pas à cause des traitements, mais parce qu'il n'y a plus que la moitié du bois qui est utilisé. Il faut savoir en réalité que beaucoup de pâtes de papier qui sont utilisées ne sont ni des pâtes chimiques ni des pâtes mécaniques, mais un savant dosage entre les deux pâtes. C'est-à-dire à dominance de pâtes mécaniques pour les papiers ordinaires, papiers journaux, etc. Disons à dominance de pâtes chimiques pour les papiers d'écriture, cahiers, etc. C'est-à-dire ce qui n'a pas toujours le cas, parce que les cahiers du début du siècle sont dans très mauvais papier. Et je les ai vus parce que je crois qu'on a pas mal de manuscrits de Proust qui sont comme ça sur des cahiers. Je ne vous parlerai pas des manuscrits de Villiers de l'Isle-Adam. Une restauratrice les avait. Quelqu'un qui ne ferait pas attention mettrait ça directement à la poubelle vu l'état où c'est. Et elle m'a dit d'ailleurs, on a l'impression qu'ils en sortent. Donc, voyez-vous, nous avons une masse de documents qui sont en perdition dans les bibliothèques. Puis un grand nombre de livres et de brochures. Alors, quels sont les procédés qui existent? Ben, il y a une prévention, bien sûr. On dit bien sûr qu'il faudrait maintenant imprimer sur du papier neutre. On est capable de le faire. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème économique. Et puis, il faut aussi savoir, quand on parle du papier, on parle de la matière première du papier. Mais dans le papier, vous avez aussi ce que l'on appelle les encollages. C'est-à-dire, si vous prenez du papier tel que sans être encollé, vous avez du buvard. Pour rendre le papier apte à l'écriture ou à l'impression, vous êtes obligé de mettre un produit, c'est-à-dire on fait l'opération d'encollage ou de collage, comme on dit aussi, je crois, maintenant, avec des produits. Je crois maintenant que ce sont des produits neutres, mais qu'ils n'ont pas toujours été. Vous avez aussi ce que l'on appelle les charges. Les charges sont différents produits que l'on ajoute au papier pour lui donner telle ou telle forme, tel ou tel aspect, etc. Là, un exemple que je peux vous donner, on utilise par exemple le kaolin pour faire le papier glacé. Le kaolin est un produit assez neutre. Je pense que le papier glacé qu'on utilise moins maintenant qu'on utilise au début du siècle est moins atteint par l'acidité qu'autre chose, mais le papier glacé a un autre inconvénient. En cas d'inondation, même de simple humidité, en cas d'inondation, les livres en papier glacé sont fichus. Ça devient un paquet de colle, tout se colle. Mais en cas d'humidité, vous pouvez les abîmer aussi. Alors, comme produits qui peuvent abîmer le livre, il y en a eu. Alors justement, dans les temps anciens, on n'avait pas ces problèmes de dégradation, autodégradation du livre. Les matériaux que l'on utilisait dans la fabrication des livres étaient des matériaux de bonne qualité, même si c'était fait de façon artisanale. Il y a quand même des problèmes qui se sont posés, d'une part pour les encres. Les encres des manuscrits étaient des encres métallogalliques, donc des encres qui peuvent s'acidifier facilement et attaquer le support, que ce soit le papier ou le parchemin. Et on trouve effectivement des manuscrits de toutes époques dont le texte attaque le support. On voit ça dans des manuscrits médiévaux, on voit ça dans des manuscrits musicaux. Vous savez, les petits pâtés que l'on fait pour faire les noirs ou les croches attaquent le support. On voit ça aussi dans les dessins de Victor Hugo. Quand on a fait l'exposition pour le centenaire de Victor Hugo en 85, il y a eu une grosse opération de restauration des dessins de Victor Hugo. Victor Hugo, vous savez, trempait très généreusement sa plume dans l'encrier. Donc on a essayé de les, comment dirais-je, de les neutraliser. Mais je crois que ce que l'on neutralise et désacidifie, c'est le support, mais pas l'encre. C'est plutôt pour des encres anciennes aussi, des encres manuscrites, vous avez le problème des encres qui pâlissent. Vous avez des encres qui pâlissent. Alors évidemment, il existerait des procédés chimiques pour raviver les encres. On pourrait les utiliser, mais on n'est pas sûr du tout que le support, lui, ne va pas être atteint. Donc quand on veut lire ces encres, on utilise plutôt des procédés optiques, lampes de Wood, photographie à l'infrarouge ultraviolet, etc. Et ça se trouve bien sûr dans des manuscrits anciens, mais dans des encres de toutes les époques. Nous avons eu un fois un ancien préfet qui est venu nous voir parce qu'il voulait qu'on lui restaure quelque chose. Il avait un portrait du général de Gaulle avec, comment dirais-je, une dédicace manuscrite du général en dessous à l'encre à stylo. Très fier de ça, il avait exposé dans sa salle à manger. Il s'est aperçu un beau jour que le texte disparaissait. Ah oui, voilà encore une source dont j'ai oublié de vous parler, c'est la lumière. La lumière et la dégradation des livres. Et pas seulement le soleil, mais je dis la lumière. Il nous arrivait tous souvent de déménager et de décrocher les cadres que nous avions au mur. Quand on décroche un cadre du mur, on s'aperçoit que le papier qui est en dessous du cadre a conservé sa couleur beaucoup plus que le papier qui est tout autour. Et ce qui nous surprend, c'est que ce n'est pas seulement dans les endroits les plus éclairés des pièces, mais on trouve ça même dans des coins qui ne sont pas tellement éclairés. Ce qui prouve que la lumière peut porter de toute atteinte à tous les matériaux organiques, et notamment le papier, les reliures, etc. La lumière, c'est bien sûr l'intensité de la lumière qui se mesure en lux. On estime que des documents ne devraient pas être exposés à plus de 50 lux. Et puis vous avez aussi ce que l'on trouve dans la lumière, c'est-à-dire les ultraviolets. Il y a des appareils qui peuvent mesurer les ultraviolets. On estime qu'on ne devrait pas avoir plus de 75 microwatts per lumen. J'avais un ultraviolémètre dans mon bureau, j'avais une fenêtre qui était là, je le faisais parfois fonctionner devant des gens par temps sombre et sans soleil, j'avais 200 ou 300 microwatts per lumen, pour montrer aux gens que ce n'est pas seulement la lumière du soleil, mais que c'est la lumière elle-même qui peut être dangereuse, parce que quand il n'y a pas de soleil, ces ultraviolets sont diffus. Donc c'est très dangereux pour les biothèques, mais aussi pour les particuliers, qui se tout d'un coup se dit, tiens, mais j'ai des livres bien reliés, puis ils sortent le livre, ils s'aperçoivent que le dos est passé par rapport. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en reliure, Vous avez remarqué qu'en belle reliure, on utilise beaucoup de rouge, beaucoup de brun de toutes les formes. Il y a de très belles reliures en marocain jaune qu'on appelle marocain citron, marocain vert qu'on appelle marocain olive ou marocain bleu qu'on appelle marocain azur. Ce sont des choses très belles, mais on en fait très peu. Parce que si on veut bien conserver ces reliures, il faut les planquer au fond d'un placard. J'invite aux encres qui pâlissent. Et puis alors, vous avez certaines encres, c'est des encres plus modernes qui présentent d'autres dangers. Je parle, c'est des encres manuscrites toujours. Les encres d'imprimerie ne présentaient pas de danger. Ce sont des encres à stylo. Par exemple, ce sont des encres qui sont assez solubles dans l'eau. Et là aussi, si vous avez des manuscrits, vous risquez de voir ce texte manuscrit en cas d'humidité et d'inondation qui coule complètement et qui disparaît. Je parlais de l'inondation de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui a touché des livres de la bibliothèque Jacques Doucet. Vous aviez des livres modernes avec des dédicaces d'écrivains à l'encre à stylo. Il y a un certain nombre de dédicaces qui ont été très abîmées parce que le texte a coulé. Les encres d'imprimerie ne sont pas du tout de la même composition, ne présentent pas du tout cet inconvénient, elles tiennent très bien. Il y a quand même un problème que je me pose actuellement, parce que je sais qu'en imprimerie, il y a, si vous voulez, des textes qui ne sont plus imprimés au sens propre, mais où l'encre est projetée. Alors je me pose la question de savoir si la fixité de l'encre sur le papier sera aussi bonne que lorsque l'encre était véritablement imprimée. C'est une question, je ne sais pas. Alors nous avions aussi, dans des documents modernes, notamment venant du département des arts du spectacle, nous avions des documents dactylographiés, y compris des doubles. C'est le problème des pulvérulents. Tout le problème qu'on a avec les documents graphiques, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de documents graphiques depuis la fin du 19e siècle qui ont été faits sur des papiers qui ne sont pas toujours de qualité exceptionnelle. Alors il y avait aussi autre chose, on voit ça plutôt dans des documents anciens, certains pigments et notamment le pigment vert qui contient du cuivre, et on a vu des documents attaqués par le pigment vert. J'ai vu aussi une fois un manuscrit oriental avec des, je ne sais plus quelle époque il était, avec des enluminures, et chaque enluminure avait un encadrement en or. Et puis en tournant le manuscrit, on s'aperçut qu'à un certain endroit, l'or attaquait le support. Alors on en a un peu conclu rapidement cette chose. L'enlumineur, voyant qu'il n'avait plus assez d'or pour terminer, a dû rajouter du bronze dans le... Et il faut faire très attention, vous savez, ces petits cartonnages du 19e siècle, genre boîte à bonbons, livre cartonnage doré qu'on donnait aux enfants, collection de chez Mamatour, Le Fort à Lille, Mégare à Rouen, Marcel Ardan à Limoges, Barbou à Limoges, ces livres très dorés, c'est évidemment pas de l'or que vous avez. Toute cette partie-là est bien dorée. Cette partie-là, c'est ouvert. Pourquoi ? Parce que probablement, le livre a dû être très longtemps sous une pile, protégé comme ça, à l'humidité. L'humidité a attaqué la partie apparente. Donc c'est pour vous montrer que ça peut aussi toucher des documents beaucoup plus récents. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure ? On dit parfois, bon, des bibliothèques se séparent de livres parce que les livres sont obsolètes. Qu'est-ce que ça veut dire un livre obsolète ? Vous avez bien sûr des livres qui, au bout de peu de temps, ont l'air d'avoir perdu tout intérêt. Et puis, si on les a conservés, 20, 30 ans ou 50 ans après, ils reprennent un autre intérêt. C'est-à-dire, ils ont perdu leur intérêt d'actualité, mais ils ont un intérêt rétrospectif. De toute façon, si on veut faire des choix, je dis toujours, prenez 10 bibliothécaires très expérimentés. Vous leur donnez un paquet de livres qui vient de paraître, vous leur dites, vous choisissez là-dessus les 10 livres à garder. Vous aurez probablement des choix différents selon les bibliothécaires. C'est-à-dire, s'il faut faire un choix maintenant, déjà, les choix pourraient varier selon les gens qui feraient les choix. Et surtout, ce qui est grave, on ignore absolument ce qui va intéresser les gens qui vont venir derrière nous. Quand on fait des recherches, on a besoin de documents de livres anciens, on regrette la disparition de beaucoup de choses. Les gens qui veulent faire l'histoire de la pédagogie ou de l'enseignement, etc., ont beaucoup de mal parce que c'est un domaine où tous les manuels scolaires, les grammaires, etc., ont disparu en masse. En faisant la biographie de David du Nord de la France, je me suis aperçu que les collèges des jésuites de la province gallo-belge, qui devaient être assez riches, publiaient tous les ans en un bel in quarto les textes qui étaient au programme de chaque classe. Et d'après ce qui reste, j'ai l'impression qu'il devait y avoir une publication annuelle et une publication par classe. Or, pratiquement, j'en ai trouvé une trentaine, alors que je vais en avoir 500 ou 600, uniquement pour cet exemple. Et ceux qui ont été retrouvés ont porté les traces de l'usage. Alors, c'est à plus forte raison tous les petits textes grammaticaux. Je vous parlais tout à l'heure de la croix de Pardieu, mais les abécédaires, dans les collèges, le texte au programme était sur des feuilles, ce qu'on appelait les feuilles de classe. On sait que ça existe parce qu'on en trouve des masses dans les inventaires de libraires. On n'a jamais trouvé de feuilles de classe. Les petites éditions de tel ou tel auteur classique, on en retrouve une par-ci par-là, tout en se doutant que c'est les restes de quelque chose qui était plus important. Même histoire pour les livres Emmanuel de Piété, livres de dévotion, etc. Quelqu'un qui veut faire l'histoire du sentiment religieux, l'histoire des mentalités à ce point de vue-là est très gêné, parce qu'on ne travaille que sur des restes de choses qui ont dû être beaucoup plus répandues. Et on pourrait dire la même chose pour tout ce qui est livres d'usage, ces livres dont je vous parlais tout à l'heure, les livres de cuisine, peut-être. Tous ces livres de médecine populaire, voici d'ailleurs, il date de 1911, voilà la 66e édition du docteur Audubois. Est-ce qu'on est capable de retrouver les 65 éditions précédentes? J'en doute fort. Si on retrouve la première édition du guide Michelin, c'est par hasard. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'édain pour les livres. Une citation que je cite toujours qui vient de Pline, il faudrait que je retrouve quand même le texte original. Je ne sais plus si c'est Pline l'Ancien ou Pline le Jeune qui est celle-ci. Nullus est libertam malus qui non aliqua parte procit, c'est-à-dire, il n'y a pas de livre si mauvais soit-il dont on puisse tirer quelque chose. Et je conclurai donc, si vous voulez, sur cette formule de Pline. Pardon? Alors évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Pardon.
Comment conserver nos bibliothèques et les bibliophiles savent aussi comment entretenir leurs livres.
J'avais d'ailleurs écrit quelque chose là-dessus. Dans la revue de la Bibliothèque nationale, j'avais fait un article il y a quelques années sur la survie et la disparition des livres, justement. Et pour montrer, je m'intéressais aussi à une chose. C'était pour montrer que malgré le dépôt légal institué par François Ier, il avait fort mal fonctionné sous l'Ancien Régime. Ce qui manque énormément à la Bibliothèque nationale, c'est les impressions de province. Une bibliographie répertoire des livres imprimés en France au XVIIe siècle, sur quelques volumes qui concernaient le grand sud-ouest de la France et les volumes de Louis Desgraves, je me suis aperçu que, parmi les livres qu'il citait, 6,5% étaient conservés à la Bibliothèque nationale. On sait pourquoi ce n'était pas déposé d'ailleurs. Vous avez beaucoup de livres qui se passaient des permissions ou qui avaient simplement des permissions locales. D'ailleurs, il faut faire très attention aux gens qui font des études sur la production ancienne et qui travaillent sur les registres de la chambre, comme de la chambre syndicale de la librairie de Paris. Ils ne travaillent que ce qui est arrivé à Paris, alors que vous avez énormément d'impressions de province qui se contentaient d'une permission locale. Prenez un exemple. Lorsqu'un évêque rentrait en fonction, il avait une permission générale pour imprimer tous ces mandements, ordonnances, institutions, livres liturgiques, recueils de prières religieuses et fidèles, etc., etc., ce qui représentait une grande masse de livres. Bon, il y avait la permission de l'évêque, et puis c'est tout. Et puis, ça n'arrivait pas à Paris. Tout ce qui était avec des caractères administratifs, actes administratifs, ils étaient imprimés sous l'autorité de l'intendant, sous l'autorité du gouverneur, sous l'autorité de la municipalité, et puis, aucune permission apparue, aucune inscription sur aucun registre. Quand ça subsistait, il faut aller chercher ça dans les collections des bibliothèques de province ou des archives, parce que les archives conservent aussi beaucoup de documents imprimés, perdus dans des liasses d'ailleurs, il faut aller à la pêche pour les retrouver, mais ce n'est pas arrivé à Paris. Non, ce qui est voué à la disparition aussi, c'est ce que l'on appelle les éphéméras. Les éphéméras, ce sont des petites choses qui existent à toutes époques. Il y a la Bibliothèque nationale, à côté du département des imprimés, un service qu'on appelle le service des recueils. C'est-à-dire, c'est le service qui conserve tout ce qui n'est pas livre à proprement parler. Publications particulières, rapports de telle ou telle institution, imprimés non publiés, catalogues, tout ce qui arrive à toucher au prospectus, etc., affiche ce qui est extrêmement précieux avec le temps, mais qu'on conserve très mal. Alors, ce qu'on les appelle les éphéméras, ce sont toutes ces petites choses, souvent des petites choses depuis le prospectus, les faire-part, toutes ces petites choses qu'on regarde un moment, puis qui passent très vite à la poubelle. Mais, si on retrouve ces choses-là 50 ou 100 ans après, regardez l'intérêt que ça peut avoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a une société qui existe depuis longtemps, qui s'appelle la Société du Vieux Papier, et qui essaye d'encourager tous les gens qui collectionnent et qu'on conserve toutes ces choses-là. J'ai vu aussi dans ce service des grands placards du XVIIIe siècle, qui sont probablement pas conservés ailleurs. Ce sont une liste très détaillée des cargaisons arrivées par les bateaux de la Compagnie des Indes. Voilà des choses intéressantes aussi, mais c'est des choses qui ont disparu. Alors, le scotch est quelque chose d'épouvantable, surtout si vous le mettez sur le papier. Le vieux, même celui de maintenant. Parce que, premièrement, il finit par se décoller. Donc, il ne tient plus rien. Mais, il laisse une trace très profonde, et je crois que nos restaurateurs, s'ils veulent faire partir ces traces, sont obligés de travailler sous hotte aspirante, avec des produits fort toxiques, et encore, ils ne sont pas toujours sûrs du résultat. La photocopie n'a pratiquement aucun intérêt pour la conservation. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut photocopier une page pour faire une comparaison avec autre chose. Pour la conservation, ça n'a aucun intérêt, alors que vous avez d'autres choses qui, eux, ont intérêt pour la conservation, c'est-à-dire les microfiches et les microfilms. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait à la Bibliothèque nationale pour tous ces papiers en mauvais état? Le plan de sauvegarde a une double optique. D'une part, reproduire en microfiche ou en microfilm les documents abîmés ou qui risquent de s'abîmer, pour ensuite leur donner des substituts et éviter les manipulations. Quant aux originaux, qu'il faut bien conserver parce qu'on a toujours besoin d'un exemplaire de référence, surtout la Bibliothèque nationale, il y a divers procédés, notamment par doublage avec des polyamides, pour les renforcer. C'est-à-dire on fait surtout pour les journaux les documents à plat. Premièrement, on fait une neutralisation dans un bain avec un produit, 1% d'un produit neutralisant. Et ensuite, quand ils sont séchés, on les double entre deux feuilles de polyamide, l'une qui est une résille adhésive qui fond à très basse température, et l'autre qui est une résille transparente, qui elle, au contraire, et on arrive à avoir des documents extrêmement lisibles, et ça les sauve quand même. Et par-dessus le marché, il y a des documents, notamment des journaux, qui sont dans un tel état. Il faut d'abord commencer par ça, avant de les redonner à produire. Alors évidemment, faute de moyens matériels, et surtout faute de personnel, on fait très peu de choses par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais enfin ce qui est fait est toujours fait. Alors par-dessus le marché, on nous disait aussi parfois quelles sont les chances de survie de ce procédé-là, est-ce que les documents vont se conserver longtemps? Une chose dont on est sûr, c'est que si on ne fait pas ce traitement-là, ils ne se conserveront pas. Donc c'est une sauvegarde déjà pour pas mal de temps. Ce sont des problèmes extrêmement intéressants.